regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo de ce soir, il va être question de télévision. Donc on commence avec une question. Est-ce que tu as déjà regardé un talk show? Si oui, laisse-moi un commentaire pour me dire lequel est ton préféré, si tu as un préféré. Alors étant moi-même avide de ce genre de programme, je pourrais t'en lister plein. La Turquie n'est pas épargnée par cet engouement. Et d'après mon ami turc Sezai, et au passage, merci pour ton aide à la création de cette vidéo. Donc promis, je fais au mieux pour bien prononcer tous les noms et prénoms. Donc d'après Sezai, regarder un talk show en Turquie, c'est presque un sport national. La famille se réunit, on s'assoit sur le canapé avec un bon petit verre de thé noir et on assiste à des dramas dignes de films. Dramas qui pourtant sont bel et bien la réalité. Exemple, en 2016, Himet Akturk avoue en direct l'agression sexuelle et le meurtre d'une enfant de 4 ans dans une émission consacrée justement à la disparition de la petite fille. Himet est aussitôt arrêté pour être jugé dans un tribunal. Et des affaires comme ça, il y en a beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Prépare-toi, parce que cette affaire est particulièrement complexe, on se croirait dans Game of Thrones, il y a beaucoup de personnage, mais promis, j'essaie de faire au plus simple pour que ce soit pas trop compliqué à suivre. Le sujet est particulièrement choquant, même si tu as l'habitude avec mes vidéos, mais pour celle-ci, bon voilà, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. On commence avec une figure très importante de cette affaire, Müge Anlı. C'est une présentatrice âgée de 50 ans, originaire d'Istanbul. Elle présente des talk shows à la télévision depuis 2006 et elle est même productrice de deux programmes. Müge remporte plusieurs distinctions, dont le Golden Butterfly Award, qui récompense les présentateurs de télévision. Müge est connue pour son esprit d'analyse très logique et son sens du devoir. Dans l'une de ses célèbres émissions, suivie par des millions de Turcs, émission qui porte son nom, la présentatrice a l'habitude d'inviter des gens. Alors, dans quel but, me demanderas-tu ? Dans le but d'enquêter sur des affaires non résolues, des cold cases. Le but de cette émission, outre le côté très divertissant, c'est bien sûr d'aider des familles à retrouver un être cher, un peu comme Perdu de Recherche à une époque en France. Enfin non, Perdu de Recherche, c'est la parodie des Inconnus, Perdu de Vue, présenté par le fameux Jacques Pradel. À l'occasion d'une de ces émissions, Müge invite les membres d'une famille, la famille Palou. Qui sont-ils ? Qui sont les membres de la famille Palou. Ça commence par un mariage. Tunçer Ustael épouse Emine Palou à Kocaeli, une province qui se situe au nord de la Turquie, dans la région de Marmara. Ils vivent dans le quartier de Körfez. Quand Tunçer débarque dans la vie de cette jeune femme, il se présente comme un hoca islamique qui aurait le pouvoir de contrôler les djinns. En turc, hoca, c'est une sorte d'enseignant spécialisé dans l'étude du Coran. Et donc en gros, Tunçer se présente comme un guide spirituel qui a des pouvoirs surnaturels. Dans la religion musulmane, et je dirais même dans la culture arabe et maghrébine, un djinn, c'est un être qui vit sur terre, mais qui est invisible pour l'homme. Les djinns sont des créatures de Dieu, comme les humains, mais ce sont des créatures conçues à partir de feu sans fumée. Ils sont comme nous, les êtres humains, ils peuvent être mauvais, ils peuvent être bons, ils peuvent être musulmans, juifs, athées, etc. Pour beaucoup de musulmans, les djinns sont considérés comme dangereux et ils sont source de crainte. En Turquie, par exemple, on déconseille de parler d'eux le soir ou la nuit, on conseille de bien laisser ses chaussures retourner dans la maison pour ne pas attirer des djinns malveillants. Enfin ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Donc Tunçer se présente comme un érudit musulman super-héros, un sorcier, et cet énorme mensonge, c'est pas seulement pour impressionner sa belle famille, c'est surtout pour lancer sa propre secte en quelque sorte. En disant à son entourage qu'il contrôle les djinns, il leur fait comprendre qu'il peut les utiliser pour les blesser, leur faire du mal, comme s'il avait une armée de démons à sa disposition, tel le prophète Souleyman. Et quand tu t'adresses à des gens très pieux, mais aussi très superstitieux, cet argument peut être très convaincant. Tunçer est effrayant, il fait peur parce qu'il a des pouvoirs magiques, des pouvoirs qui peuvent faire du mal. En plus de cette réputation qu'il se donne, Tunçer est grand, avec un visage émacié, une calvitie prononcée et une dentition un peu négligée. Alors je ne juge pas le physique, bien sûr, mais clairement, Tunçer a une apparence qui est vraiment effrayante, on dirait presque qu'il la cultive. Chez les Arabes, on dit qu'une personne peut avoir un visage lumineux, c'est-à-dire qu'on peut voir sur son visage que c'est une bonne personne, et au contraire, on peut dire d'une personne qu'elle a le visage sombre parce qu'elle est mauvaise, et ça se voit. Tunçer est effrayant, imposant et plutôt charismatique, donc son plan de manipulation fonctionne très bien. Dans la famille Palou, on commence à se convertir à ce culte bizarre instauré par cet homme étrange. Tunçer est tellement influent qu'il manipule sa belle-sœur Maryam, au point de la persuader d'acheter une voiture. Bon, tu me diras, acheter une voiture, en soi, il n'y a rien de méchant. Eh bah si, ça le devient à partir du moment où on se rend compte que le but de ce gourou, c'est de pousser Maryam à l'expulsion. Elle est virée de chez elle et elle est forcée de vivre dans cette voiture. Seulement deux membres de la famille comprennent le petit jeu de Tunjal. Haroun, le père d'Emine, et Emine, je le rappelle, c'est sa femme. Et l'autre personne qui se rend compte de ce petit manège, c'est Ahmed Tahnal, son beau-frère. C'est le mari de la sœur de Emine. Ces deux hommes savent très bien que Tunjal est un menteur et qu'il ne maîtrise pas les djinns, mais Tunjal joue sur les cordes sensibles de la famille Palou pour voler leurs terres et leurs maisons, en jouant sur leur peur. C'est une menace constante pour tout le monde, pour tous ceux qui gravitent autour de Tunjal. Et donc là, il est important de préciser qui sont ces personnes qui gravitent autour de Tunjal. Je te montre à l'écran, ce sera plus simple en images. Donc en haut, on a Haroun et Hawa, les parents, puis leurs enfants. Donc on a les filles, Emine, Aïché et Maryam. Puis on a deux garçons, Issa et Fatih. Emine est mariée avec Tunjal, le sorcier, et Maryam est mariée avec Ahmed Tanhal. Donc on reprend notre affaire. Tunjal est tellement fort à son jeu qu'il manipule un des frères de sa femme, Issa, et là c'est pas pour acheter une voiture, il le pousse à tuer son beau-frère Ahmed. Ahmed, comme je le disais il y a deux minutes, il refuse de croire les conneries de Tunjal, il refuse de se soumettre à sa domination. Tunjal décide donc qu'il doit disparaître des mains de son beau-frère. Et comment notre sorcier va s'y prendre pour arriver à ses fins? Il manipule Issa en lui disant bah « En gros, ta sœur, elle fait la PUTE et c'est son mari, Ahmed, qui vend ses services, qui la force à vendre ses services. » Le pauvre Ahmed se fait assassiner, accusé à tort de prostituer sa femme. Quand son corps est retrouvé, c'est Haroun, le père de famille, qui se rend aux autorités et il avoue le meurtre pour sauver son fils Issa de la prison. Il passera 6 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. À ce stade, tu comprends que Tunjal est un véritable monstre, mais il a à peine commencé à mettre son plan à exécution. Son projet est simple, éliminer ceux qui ne croient pas en la toute-puissance du gourou qu'il est. Pour noircir encore plus le tableau, Tunjal va abuser de 4 enfants au sein de la famille, dont ses propres enfants à lui. Tunjal va torturer d'autres membres de la famille Palou avec des méthodes digne des films d'horreur les plus flippants. Il plante des aiguilles dans la peau de ses victimes, il les force à boire de l'alcool à brûler ou du vinaigre. Et pendant ce temps, sa femme, Emine, elle ne fait rien. Elle assiste aux sessions de torture, elle voit ses propres enfants se faire détruire par leur père, et elle ne fait rien. Complicité, emprise, est-ce que Emine est une sorte de victime collatérale? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Un jour, Recep, un des enfants du couple Maryam Ahmed, s'enfuit. Il s'échappe, il court jusqu'au poste de police et il raconte les horreurs qu'il vit chaque jour. Et là, que fait la police? Ils vont rendre l'enfant à la famille. Les membres de la famille expliquent aux policiers que Recep est juste confus parce qu'il a été victime d'un kidnapping. Un scénario inventé par la famille pour éviter le scandale. Comme tout le monde a peur de Tunjal, les membres du clan Palou sont prêts à tout pour l'aider à maintenir sa position de chef, y compris nier les agressions que subissent les enfants. Recep fut gras au total 3 fois, jusqu'à ce qu'il soit finalement examiné par une équipe médicale qui admettra officiellement que le petit est bel et bien victime de viol. Et pourtant, ça ne suffit toujours pas pour que la police puisse enfin intervenir et procéder à une arrestation ou même plusieurs arrestations. En dépit de toutes ces accusations horribles, aucun dossier ne sera ouvert. Après cet épisode traumatisant, Tunjal continue de plonger ses proches encore plus dans l'horreur. Il affame Maryam, sa belle-sœur de 32 ans, à qui il a déjà volé le mari en le faisant tuer par Issa, et Maryam qui, je le rappelle, vit dans une voiture à ce stade-là. Tunjal va affamer la pauvre Maryam jusqu'au point de non-retour. Elle meurt dans l'indifférence générale, attachée à un arbre, après des jours de privation, pas d'eau, pas de nourriture. 1 an après la mort de Maryam, Tunjal abuse fréquemment de la petite Melike, sa fille. Elle est âgée de seulement 6 ans au moment des faits. Melike, c'est la sœur de Recep, donc ce sont les enfants du couple Maryam et Ahmed. Tous les jours, Tunjal va attacher une pierre sur le ventre de la petite Melike et il l'oblige à boire de l'alcool, pensant que ça suffira à l'empêcher de tomber enceinte. Il finit aussi par tuer Melike. Les corps de Melike et de sa mère Maryam ne seront jamais retrouvés. Dans la maison de Tunjal à Kurfez, personne n'est à l'abri. Tous les jours, on a droit à une crise de colère de la part de Tunjal et les abus sexuels sont fréquents, autant sur les femmes que sur les enfants qui sont sous son toit. Un jour, Tunjal jette son dévolu sur la sœur de son beau-père, Gulbahar Sadek. Mais Gulbahar n'est pas dupe. Elle voit clair dans son jeu, non, ce mec ne contrôle pas les djinns, c'est rien de plus qu'un menteur et un voleur. En réaction, Tunjal fait appel à ses disciples, à des membres de la famille qui sont sous sa domination. Ils ont très peur de lui. Ils vont agresser la pauvre Gulbahar avec un spray au poivre. Ils la forcent à signer des documents pour transférer certaines de ses propriétés et les mettre au nom de Tunjal. Ils en profitent aussi pour l'obliger à payer quelques factures qui sont au nom de Tunjal. Comme je le disais plus tôt, Tunjal aime voler les maisons des gens qui l'entourent. Maison, argent, enfin tout ce que tu possèdes et qui l'intéresse quoi. La courageuse Gulbahar ne va pas se laisser faire. Elle poursuit Tunjal en justice suite au vol de ses propriétés et il sera condamné. Alors malheureusement, j'ai pas plus d'informations à ce sujet, mais ça fait déjà plaisir de savoir qu'il y a un semblant de justice, au moins pour Gulbahar, à ce stade. Tu te souviens du père de famille, Haroun ? Il est finalement libéré de prison en 2011 après avoir purgé 6 ans pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Dès sa sortie, il cherche à mettre fin au cauchemar que vit sa famille. Haroun prévient la police, mais quand les officiers se déplacent, ils voient que les membres de la famille Palou sont tous très loyaux envers Tunjal et pas envers lui qui est le père de famille. Ils tournent tous le dos à Haroun qui ne s'en remettra jamais. Totalement abasourdi, le père de famille sombre dans la folie et il finit dans un hôpital psychiatrique. À ce jour, il est encore en vie dans un institut psychiatrique quelque part en Turquie. Les deux enfants de Tunjal sont aussi hospitalisés pour les mêmes raisons. En même temps, c'est totalement compréhensible. Les sévices qu'ils ont endurés dépassent l'entendement. On ne sort pas indemne de ce genre d'atrocité. Et c'est là qu'on revient à notre présentatrice de télévision, Müge Anlı. Elle invite Tunjal à son émission et il répond favorablement. Il explique que ce sont les autres membres de la famille qui ont tué Ahmet, sa femme Meryem et leur fille Melike. Tunjal va même accuser Hava, la mère de famille, de savoir la vérité et d'être en plus complice. Comme il n'y a pas d'enquête officielle ouverte, la présentatrice Müge décide de lancer sa propre investigation. Et en réalité, c'est un peu ce qu'elle fait sur son plateau. Quand la police n'est pas mobilisée, on passe par des moyens plus populaires. Elle profite de son influence pour essayer de résoudre certains mystères et c'est une grande responsabilité qu'elle endosse. Müge demande à une équipe de fouiller l'endroit où réside la secte Palou à Kocaeli. Dans un premier temps, l'objectif est simple, retrouver les corps des disparus. Nous sommes le 21 décembre 2018, quand Hava, la mère de famille, se présente à l'émission avec ses fils Issa et Fatih. Elle veut retrouver sa fille Meryem, disparue en 2008, et sa petite-fille Melike, disparue également. Chaque diffusion, chaque émission est visionnée par des millions de personnes qui découvrent une famille très problématique et très contradictoire. Face aux caméras, les langues se délient, des accusations commencent à surgir de l'ombre, dont le sujet de l'abus des enfants, violence en tout genre, torture et bien sûr les meurtres. Un voisin qui regarde l'émission appelle et témoigne, et il porte une allégation très grave envers Tunjal. Il n'y avait aucun problème dans la maison jusqu'à l'arrivée de leur gendre, Monsieur Tunjal, explique le voisin. Après son arrivée, il y avait constamment des disputes très vives dans la maison. Un jour, j'ai été dérangé par les bruits et je suis allé chez eux. Je les ai vus se frapper contre les murs. Quand ils ont réagi, ils ont dit « il y a de la magie dans la maison, nous la cherchons ». J'ai été étonné de cette rencontre. La famille a commencé à faire ce que Monsieur Oustael, donc Tunjal, a dit. Ils ont même vendu les meubles de la maison dans laquelle ils vivaient. À un moment donné, ils ont quitté la maison. Ils se sont installés à Aydın Didim. Au bout d'un moment, Tunjal est venu seul. Il avait une liasse de billets à la main. Je lui ai demandé où il avait trouvé l'argent. Il a dit qu'ils avaient vendu la maison. Hüseyin Sadık, le fils de Gulbahar, la dame qui s'est fait agresser chez elle pour payer des factures et céder ses propriétés, il va déclarer en direct à la télévision que 2 jours avant l'agression de sa mère, Hava, la mère de famille Palou, s'est rendue au domicile de sa mère et lui a volé sa pension. Il ajoute que, concernant la disparition de Meryem et de sa fille Melike, il a été mis au courant très tardivement. Et d'ailleurs, on a pour la première fois une description de la personnalité de Meryem, qui était apparemment une personne très sensée et gentille. D'autres secrets de famille honteux vont ressurgir, comme des signes très inquiétants de perversion du côté de Tunjal, qui aurait eu un rapport par derrière sur son propre neveu, Recep, alors qu'il était enfant. Au cours de l'émission, quand on l'interroge sur la disparition de sa sœur Meryem, Issa se souvient. En décembre 2008, il est 2h du matin, quand Meryem sort de sa voiture où maintenant elle réside, donc elle sort de sa voiture pour aller aux toilettes, 15 minutes passent, puis 20 minutes, ça commence à faire long, inquiète, sa famille part à sa recherche, Meryem est introuvable. Donc clairement, il est en train de faire croire à une disparition. alors que visiblement il y a des témoignages au sujet de cette soi-disant disparition qui sont totalement contradictoires. D'autres membres attestent que le frère d'Ahmed, Halit Tahnal, est venu chercher Meliké un an après la disparition de Maryam. Donc la défense de la famille Palou, ça va être d'accuser l'oncle de Meliké, Halit, d'avoir kidnappé la petite. Au cours de l'émission, Issa explique qu'il pense que les responsables de la disparition de sa sœur Maryam pourraient être la famille de son mari Ahmed. Maryam aurait fui le domicile familial à Istanbul à la suite d'une grande pression imposée par son mari, donc il l'aurait forcée à vendre son corps, vendre ses services, et elle aurait pris la fuite. Elle serait retournée à Kocaeli, d'où elle est originaire, là où réside toute la famille Palou. Issa explique que Ahmed, le mari de sa sœur Maryam, serait venu frapper chez la famille Palou pour demander à Maryam, sa femme, de revenir à la maison à Istanbul. Une dispute éclate et c'est apparemment dans ces conditions-là qu'Ahmed est assassiné. Du côté de la famille d'Ahmed, on rejette la faute sur Issa. Son père Haroun est allé en prison pour ce meurtre, certes, mais c'était pour sauver son fils de la prison. Après la mort de son mari Ahmed, Maryam doit retourner vivre avec le clan Palou. Sa propre famille lui reproche à Maryam d'avoir comploté contre eux et elle aurait soi-disant forcé ses sœurs Emine et Aïché à tomber dans la prostitution, la drogue et l'alcool. C'est absolument faux, la pauvre Maryam est morte dans d'horribles circonstances et ses accusations, c'est presque pour se déculpabiliser de sa mort. Et toujours pendant l'émission télévisée, on découvre qu'en 2011, Hava, la mère de famille, a fait une déclaration à la police. Elle aurait affirmé que sa fille Maryam était attachée à un arbre, privée d'eau et privée de nourriture. Et c'est pas tout ce qu'elle va dire à la police, elle leur dit également que le corps de sa fille a été enterré par son propre frère, donc son fils, Issa, et son beau-frère, le sorcier, Tunjar. Le corps aurait été enterré quelque part dans la région de Tunchiftlik, pardon si j'ai sûrement mal dit, donc à Kocaeli. Hava ajoute aussi dans cette déposition que sa petite fille, Meliké, a été forcée à boire de l'alcool à brûler et du vinaigre sous la pression de Tunjar. La raison derrière cet acharnement envers la petite Meliké, on en revient au fameux djinn. Si Tunjar la traite aussi mal, cette petite, c'est parce qu'elle est possédée par un djinn. Alors je savais pas que violer un enfant qui est soi-disant possédé par un djinn, ça allait enlever le djinn. L'exorcisme est utilisé par Tunjar comme prétexte pour torturer des gens qu'il a envie de torturer, qu'il a envie de voler aussi. Quand la petite Meliké finit par être tuée à la suite d'autant de mauvais traitements et tortures, c'est Hava qui lave son corps et le place dans un linceul avant de l'enterrer. Et il aura fallu attendre cette émission pour déterrer cette déclaration faite par la mère de famille à la police. Et au cas où tu te demandes ce que la police a fait, ils n'ont rien fait du tout. Cette déclaration a été mise de côté et aucune poursuite ou même enquête n'ont été entamées. Au fur et à mesure que les émissions sont tournées et diffusées, la justice se mêle enfin de l'affaire. Une enquête est ouverte pour vérifier si toutes ces accusations sont fondées, vérifier si tout ça c'est vrai. Et là, on a un gros coup de théâtre. La famille Palou revient sur ces déclarations. Tout est faux, soi-disant. Ils ont avoué les meurtres sous la contrainte. Alors la contrainte de qui, j'aimerais bien savoir. Les vrais coupables, ce sont les membres de la famille Tahnal, donc la famille d'Ahmed, le mari de Maryam. La famille Palou va jusqu'à accuser la famille Tahnal d'être impliquée dans un trafic d'organes, dans d'autres meurtres et des enlèvements d'enfants. Emine, la femme de Tunjar le sorcier, va à son tour nier toutes les accusations qui portent sur sa famille, sur la famille Palou. Pendant l'émission, d'autres témoins et des personnes qui résident dans la même région que la famille Palou continuent d'appeler pour témoigner et ils sont de plus en plus nombreux. Ils se présentent comme étant des connaissances et ils affirment que Tunjar maltraite sa femme et que c'est un violeur. Encore une fois, Emine va nier ses accusations à l'encontre de son mari, mais ça commence à faire beaucoup d'accusations à nier. Pour couronner le tout, Emine reproche à la défunte Maryam, sa propre sœur, d'avoir violé et drogué son mari. Pourquoi elle aurait fait ça? C'est une excellente question. Emine n'a pas d'explication à donner, juste des accusations contre sa sœur forcée de vivre dans une voiture, morte de faim et de soif attachée à un arbre. Le neveu de Tunjar, Recep, va aussi participer à l'émission. Il témoigne, il raconte ses sévices, il explique que sa sœur Meliké et lui-même ont été affamés, maltraités, torturés et sexuellement abusés. Tunjar, de son côté, rejette la faute sur Maryam. C'est elle qui aurait fait vivre toutes ces atrocités à ses propres enfants. C'est facile d'accuser quelqu'un qui est mort. Tunjar va montrer en direct, pendant l'émission, l'endroit où le corps de Maryam a été enterré. Et des fouilles sont alors lancées par la police. La raison pour laquelle c'est Tunjar qui leur montre l'endroit où a été enterré Maryam, c'est parce qu'il se déresponsabilise de ce meurtre. Il accuse la famille de Ahmed, son mari. Et à ce stade, on se demande pourquoi la famille Palou continue de soutenir le sorcier Tunjal. Selon Hava, la mère de famille, son gendre, est un protecteur. Après l'emprisonnement de son mari, qui a sauvé son fils de la prison, elle a besoin d'aide et Tunjal lui apporte justement ce soutien dont elle a tant besoin. Et c'est dire à quel point l'emprise psychologique est forte. Hava va céder 5 de ses maisons à Istanbul et à Kocaeli à son gendre Tunjal. Sur le plateau télé, des experts en psychologie estiment que Tunjal a su nourrir les peurs de ses victimes pour pouvoir les rendre dépendantes de lui. Après tous ces aveux, toutes ces déclarations faites pendant l'émission de Muguet en janvier 2019, la police de Kocaeli lance des recherches avec un chien renifleur de cadavres. Malheureusement, ça ne donnera rien. Par contre, tous ces aveux et déclarations seront suffisants pour procéder à des arrestations. Des officiers vont débarquer sur le plateau de tournage et arrêter Tunjal et sa femme Emine en direct sur la chaîne ATV. Des images aujourd'hui devenues cultes pour les Turcs qui n'oublieront pas de sitôt cette histoire de dingue. Au moment où le couple est arrêté, on peut entendre la foule applaudir tandis que la voix de la présentatrice résonne. C'est un grand moment de l'histoire de la télévision turque qui vient de se produire. C'est une émission comme ça, comment je dois faire en vrai? Au total, ce talk show autour de la famille Palou aura duré plus de 12 heures, plusieurs sessions réparties sur 3 diffusions différentes. Elles sont disponibles sur YouTube dans leur intégralité et on est sur une moyenne de vues d'à peu près 5 millions par vidéo. En 2020, le procès de Tunjal et Emine se tient à la cour pénale de Kocaeli, l'endroit où tout a commencé. Le bureau du procureur regroupe les dossiers de chaque membre de la secte Palou, tandis que le ministère de la Famille et des Politiques Sociales annonce qu'il prendra des mesures de santé au sujet de la famille Palou et qu'une plainte sera déposée. Et voilà comment se déroule le procès. L'enquête est ouverte par les procureurs qui ont pour mission de rassembler les preuves. Pour notre affaire, ce sont les aveux et les déclarations faits pendant l'émission qui seront retenus. Le procureur rédige un acte d'accusation qui détaille toutes les charges contre les membres de la famille Palou. Les accusés comparaissent devant le juge une première fois, avant le procès, en cour pénale. Les fouilles pour retrouver les corps des victimes ne donnent rien dans un premier temps. On finit par retrouver des fragments d'os à Kocaeli. Malheureusement, ces ossements ne seront pas identifiables. Donc concrètement, on ne sait toujours pas où sont les corps de Meryem et Melike. La police va étendre le périmètre de recherche à Kocaeli et Sakarya, mais les fouilles ne donnent rien de concluant. Pendant l'audience, Tunjal a le culot de prononcer cette phrase. Bien qu'il y ait des centaines de morts, vous vous êtes concentré sur la mort de Melike. Je n'ai rien à voir avec Melike, je ne sais pas si elle est morte ou non, je veux ma libération et l'acquittement. Rien à voir avec Melike, mais je croyais que c'était Agnès. Pendant le procès, on apprend que Tunjal fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir violé une ordonnance d'éloignement émise par un psychiatre qui a détecté des signes de violence et de dangerosité chez lui vis-à-vis de ses propres enfants. D'ailleurs, ces enfants, parlons-en, que deviennent-ils ? Alors comme ça peut arriver dans certaines affaires criminelles, ils seront placés sous la garde des services sociaux. Un jour, Tunjal va appeler le centre des services sociaux à Kocaeli après la prise en charge de ses enfants. Il profère des menaces de mort à l'attention des policiers qui se sont occupés de placer ses enfants. Les policiers portent plainte et Tunjal écopera de 3 ans de prison. On ne menace pas la police, enfin. Quand on l'interroge sur ces menaces de mort, Tunjal répond avec culot « Je n'avais pas l'intention de leur faire du mal. Si je le voulais, je leur aurais tiré une balle directement dans la tête. » Il croit vraiment qu'il a des super pouvoirs, le mec. Pour information, juste après sa première apparition dans l'émission, Tunjal est arrêté pendant 5 jours avant d'être libéré et de revenir dans l'émission. On revient au procès et en voici l'issue. Tunjal est condamné à 4 ans de prison pour privation de liberté pour avoir attaché Meryem à un arbre et 3 ans de prison pour l'utilisation de la carte bancaire de Meryem. Il est aussi condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir torturé et bien sûr tué Meryem. Le chef d'accusation est meurtre intentionnel avec sentiment monstrueux ou infliction de douleur. En Turquie, cette peine est particulièrement dure, c'est la peine la plus stricte, la plus sévère. Elle remplace la peine de mort qui est abolie en 2004. Aucune possibilité de libération ne sera accordée à Tunjal et il est forcé à l'isolement prolongé. Il déclare au sujet de sa sentence « Si c'est l'exécution, c'est la mort. Si c'est la mort, c'est la mort. Il n'y a aucun compte que je ne puisse pas rendre. » Notre sorcier et poète a ses heures perdues, visiblement. Depuis sa cellule, Tunjal est encore dans son délire de djinn, puisque, d'après ses co-détenus, il tente de jeter des sorts depuis sa cellule. « Expelliarmus !» Voilà, comme ça, moi, il ne me jette pas de sorts. Emine, l'épouse de Tunjal, Hava, la mère de famille, Issa et Aïché seront tous condamnés à 12 ans et 6 mois de prison pour complicité dans la commission d'un meurtre. Emine affirme que les vrais criminels, les vrais coupables, sont toujours libres. Nous sommes punis pour des crimes que nous n'avons pas commis, dit-elle, malgré tous les témoignages qui jouent en sa défaveur. Ils reçoivent aussi une peine de prison d'un an et 6 mois pour privation de liberté, une peine qui, au final, sera suspendue. Pourquoi ? C'est une excellente question. Fatih, le plus jeune de la famille Balour, est condamné à 8 ans et 4 mois de prison pour complicité, mais il est finalement libéré avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Le juge déclare « À l'époque des faits, tu étais jeune, mais nous avons conclu que tu étais conscient des crimes commis. » Voilà, donc passe quand même un petit peu par la casse-prison. Aujourd'hui, de nombreux membres de la famille Balou ont été libérés, dont Issa, Emine et Aïché. Et parmi les accusés, une bonne partie a demandé l'acquittement. Mais heureusement, la cour estime que Tunjal ne pourra jamais bénéficier d'un acquittement. Et concernant les accusés qui ne sont pas incarcérés, ils sont soumis à une simple interdiction de voyager. Et on va avoir un rebondissement dans l'affaire. La première chambre pénale du tribunal régional de Sakarya annule la décision du tribunal au motif qu'il y a une erreur dans la procédure. Les accusés ont tous été défendus par le même avocat. Conflit d'intérêts. Il y a donc un deuxième procès devant le juge à Khojaïli. L'affaire est close pour de bon le 30 mars 2021 et les condamnations sont quasiment les mêmes. Ça reste assez rare de juger un meurtre sans corps, mais pas impossible, donc bravo à la justice turque d'avoir honoré les mémoires de Meryem et Melike et quelque part aussi celle de Ahmed. Dans une affaire de ce genre, on est presque obligé de se demander pourquoi, comment c'est possible, comment un simple homme, et en plus qui n'est même pas de cette famille, a pu réussir à manipuler une famille entière, à les faire abandonner la raison. Le cas Palou n'est pas isolé, malheureusement. L'inceste et les abus et la manipulation existent dans tous les pays, dans beaucoup de familles. C'est pas représentatif d'une région ou d'une culture en particulier. Ce qu'on remarque dans la famille Palou, c'est que c'est une famille très conservatrice, tant sur le plan religieux que politique que social. Ils sont plus facilement manipulables que des personnes qui sont éduqués d'une certaine façon. En jouant sur leur ignorance, mais surtout sur leur peur des djinns, leur croyance au pouvoir magique, Tunjal instaure un climat de crainte dans cette maison. Il rend fou littéralement des membres de son entourage au point de les mener à l'asile. C'est pas un super pouvoir, mais presque. Plus ses disciples ont peur de lui, plus il gagne en puissance. Et il ne choisit pas ses victimes, ses disciples, entre guillemets, au hasard. Ce sont des enfants, des femmes, en l'occurrence des cibles qu'il estime faciles à soumettre. Cette affaire va profondément marquer la Turquie. Sur Reddit, des turcophones expriment à quel point cette histoire a pu les choquer. Un utilisateur écrit « Un tel scénario me serait utile si je voulais poursuivre une carrière dans le cinéma à l'avenir ». Waouh, ils ont vécu un scénario d'horreur que Stephen King lui-même n'aurait pas pu imaginer. Un autre se demande quel pourcentage de la population du pays vit avec cette mentalité. Grâce à son sens aigu de la justice, Müge Anlı, la présentatrice, va monter en popularité. Dans son émission, elle ne se contente pas simplement d'inviter des témoins, elle mène une véritable enquête indépendante de l'État, et ce dans la légalité la plus totale. Si la présentatrice n'avait pas déployé son talent, son potentiel journalistique, peut-être que la famille Palou n'aurait jamais avoué ses meurtres et justice n'aurait jamais été rendue. Müge mobilise des équipes pour retrouver les victimes, le travail fourni est extrêmement impressionnant, Müge est très apprécié dans son pays et le cas Palou n'est pas la première affaire qu'elle va résoudre. Récemment, en mars 2024, Shaban Attache est porté disparu et retrouvé grâce à l'émission. Pendant 2 semaines d'enquête, l'ex-femme du disparu, Emine Karabulut, avoue en direct avoir tué son mari et révèle l'endroit où elle s'est débarrassée de son corps. En 2016, Irmak Kupal avoue en direct le viol et le meurtre d'une enfant de 3 ans, pour n'en citer que quelques-uns. Depuis le début de l'émission, en 2008, Müge et son équipe de choc ont aidé à retrouver 4091 personnes disparues et réunies 993 familles. L'affaire Palou est remontée jusqu'au gouvernement turc et elle conduit à une sensibilisation des personnes au danger des sectes et des abus au sein d'une même famille. On voit dans le pays un renforcement général des lois et des mesures contre les violences. Et ce qu'on peut conclure en cette fin de vidéo, c'est qu'une présentatrice de télé a permis à la justice de faire son travail, ou plutôt à pousser la justice à faire son travail. On se rappelle que Hava avait fait une déclaration concernant sa fille Meryem, déclaration qui a été gentiment mise sous le tapis comme de la poussière que t'as la flemme de balayer. Certes, l'émission n'a pas ramené à la vie les 3 victimes, Ahmed, Meryem et Melike, mais justice a été rendue et c'est rassurant de se dire que Tunjal, le sorcier, passera le reste de sa vie derrière les barreaux, là où il ne peut plus faire de mal, sauf s'il a une baguette magique. Pour information, en France, près de 16 000 enfants sont agressés sexuellement dans le cercle familial chaque année. En 20 ans, ce nombre a triplé. On estime qu'un Français sur 10 a été victime d'inceste. Et après, on attribue tous les maux de la France à l'immigration. Je voudrais terminer avec une note un peu plus joyeuse, parce que cette affaire, elle est quand même lourde et incroyablement horrible. Et on aura deux Random Item Reviews en restant sur la Turquie. Bah, deux parce que ça faisait longtemps. Alors désolé si j'en ai déjà parlé, mais je te recommande vivement de regarder le film Kogustaki Musize. J'espère que je le prononce bien. C'est un film turc qui est disponible sur Netflix. Je ne veux pas te spoil, mais je te préviens, sors les mouchoirs. Et deuxième Random Item Review, c'est un restaurant turc qui est à Paris, dans le 19e arrondissement, juste à côté de chez moi, donc tu risques de m'y croiser, ou de croiser Justin. F&D Grillhouse, qui se trouve au métro Corentin Cariou, sur la ligne 7. Et au passage, si tu connais un bon restaurant turc, balance-moi ça en commentaire, j'emmènerai Justin. Enfin, il a quand même eu le culot de me dire que sa cuisine préférée dans tout l'univers, c'est la bouffe turque, même après qu'il ait goûté ma délicieuse cuisine. Non, il adore la bouffe turque. Je suis très insultée profondément, mais c'est comme ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci aux personnes qui vont laisser un commentaire, merci de t'abonner si c'est pas fait, ça soutient énormément la chaîne. Que dire de plus, si ce n'est c'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.